Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Gaëtan, développeur web et expert dans son domaine. Dans cet épisode, Gaëtan nous donne sa vision du code et des études et nous explique comment il arrive à voyager partout dans le monde grâce à son métier qu'il s'est construit presque sur mesure. On va voir également que contrairement à ce qu'on peut penser, être freelance ne rime pas toujours avec être libre. Si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange avec Gaëtan. Salut Gaëtan, merci d'avoir accepté l'invitation pour un épisode de ce nouveau podcast. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est que tu te présentes un peu, que tu nous expliques un peu ce que tu fais aujourd'hui.
Ok, pas de souci. Alors moi, c'est Gaëtan de Smet. Alors je suis développeur full stack. Alors avec une particularité, c'est que je fais principalement du front et j'ai quelques connaissances en back. Donc les technos que j'utilise, c'est principalement du Vue.js et au point de vue back, du Node.
Ok. Est-ce que tu peux expliquer rapidement la différence entre le back et le front ? Alors très succinctement, hein, pour les personnes, les auditeurs qui connaissent pas, qui connaissent pas ces deux termes.
Alors le front, c'est toute la partie graphique d'un site web. C'est ce que vous allez voir quand vous allez sur Google. Et toute la partie back, c'est toute l'intelligence qu'il y a derrière un site web. C'est par exemple les modules de paiement. Comment calculer un itinéraire sur Google Maps, c'est toute cette partie-là.
Ok, top. Et comment t'en es venu, toi ? Alors, on peut déjà parler de comment t'as fait tes débuts dans la programmation. Et après, je veux bien que tu nous expliques comment t'en es arrivé à cette spécialisation-là, on va dire. Et comment tu t'es dit, ok, maintenant, je vais choisir ce langage, ce framework. Est-ce que c'est quelque chose qui... que tu as choisi volontairement, est-ce que c'est quelque chose qui est pérennisé, ou là tu nous as parlé de Vue.js parce que c'est ce que tu utilises actuellement, mais si ça se trouve dans 6 mois tu auras changé de technologie.
Moi j'ai un parcours qui est normal, voire un peu atypique sur certaines parties. J'ai commencé la programmation très jeune, à 12 ans, donc moi c'était déjà de la programmation web, donc avec des vieilles versions de JavaScript qui feraient peur à certaines personnes qui s'y connaissent et qui en font à l'heure actuelle. C'était quand j'étais tout gamin, je programmais des jeux de type Donjons et Dragons. C'est des RPG, donc c'est relativement facile à faire en ligne de commande. En ligne de commande, tu dis un dragon survient, tu lances un dé, vous avez telle arme. C'est relativement facile à faire pour un enfant. Donc, j'ai commencé comme ça la programmation, et comme ça me plaisait et que j'étais pas trop mauvais pour les études, du moins en mathématiques. En mathématiques, en sciences, donc j'ai eu mon bac S et je suis rentré dans une école d'ingé pour faire de l'informatique. Donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique, mais j'ai toujours été très orienté dans le web. C'est okay. Parce que dans le cursus d'ingénieur, on t'apprend plein de types de langages, le Java, le C, le C Sharp. Bon, je les ai appris à l'école, je serais incapable d'en faire maintenant. Moi, j'ai toujours voulu faire du web.
D'accord. Et c'est marrant parce que tu nous dis que tu as un profil entre guillemets normal. Moi, personnellement, je considère pas que commencer la programmation à 12 ans, c'est un parcours normal. Enfin, effectivement, on voit beaucoup de jeunes, d'ados qui se mettent à la programmation, mais ça reste quand même assez rare parce que j'ai l'impression qu'à cet âge-là, on pense pas forcément à ça. Donc, comment ça t'est venu tout ça et comment tu t'es dit « la programmation, ça m'intéresse ». Et deuxième question qui est peut-être un peu liée et qui, je pense, va intéresser pas mal d'auditeurs, comment tu as réussi à apprendre le JavaScript ? Parce que je suppose qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources qu'il y a aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on me pose souvent la question « voilà, je suis intéressé par la programmation, j'aimerais bien faire ça, ça et ça, mais je ne sais absolument pas par où commencer ». Et ce serait intéressant d'avoir ton point de vue et ton expérience là-dessus.
Alors, moi, j'ai commencé... j'ai eu la chance que mon père soit du métier. Donc, et un jour, je ne sais pas pourquoi, il m'a montré, il m'a dit oh bah, regarde ce qu'on peut faire en programmant. Donc lui, il avait programmé des trucs du style générer des séquences de nombres aléatoires, un truc vraiment basique. Et après, il m'a montré bah, qu'on pouvait faire pas mal de choses parce que je suis reparti de ces programmes. Donc au départ, tu bidouilles un petit peu, tu connais 3-4 commandes. Et après, tu peux voir aussi, il y a des personnes qui font des macros Excel. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est que sur Excel, on peut créer des tâches planifiées assez complexes et on peut les enregistrer. Alors ce qui est assez pratique de commencer la programmation comme ça, c'est que vous pouvez faire record et ça enregistre tout ce que vous êtes en train de faire et ça le traduit en ligne de code. Donc pour un enfant, c'est relativement simple. Vous supprimez des lignes et on voit ce qui a été ajouté et ce qui a été enlevé. Et très vite, je suis passé sur bah, tout ce qui est web parce que c'est facile à faire. J'avais essayé d'apprendre quand j'étais gamin le C++, du moins même pas le C, mais le problème du C, c'est qu'il faut énormément de prérequis pour comprendre que le code, bah, on l'écrit pas réellement, on l'écrit, on le compile. Donc il y a des étapes, il y a vraiment une configuration à faire que du web en général, tu as juste à créer ta balise script, tu mets le code à l'intérieur et ça fonctionnera. Surtout le JavaScript qui génère très peu d'erreurs. En réalité, on peut écrire n'importe quoi, ça fonctionne toujours. C'est un peu le défaut du JavaScript. Et pour répondre à ton autre question, bah, alors moi, j'ai pas appris à coder avec Internet. Alors, ce qui est un peu bizarre quand tu as fait de la programmation web, mes parents n'avaient pas Internet. Et comme ils ont vu que je m'y intéressais, ils m'ont acheté des livres que je dois avoir toujours, bon, qui sont dans un état un peu catastrophique. Je pense que toutes les pages sont à moitié arrachées. Je les ai bien esquintées, les livres. Mais en gros, dans ces livres-là, ils te donnaient des astuces, ils te donnaient du code, ils te donnaient les principes, des boucles, les fonctions. Ils te donnaient du code à recopier aussi. J'ai beaucoup appris en recopiant du code. Parce que comme on n'avait pas la fonction copier-coller, bah, tu écrivais les lignes de code. Donc ça m'a permis de vraiment me dire que j'aimais ça, quoi. À 15 ans, je savais que je voulais être programmeur.
Ouais, effectivement, ce que tu dis pour rebondir un peu sur les différences grossièrement entre les langages comme le C et d'autres langages comme le JavaScript qui sont pas compilés, il y a aussi cet aspect visuel, c'est-à-dire qu'avec du HTML, CSS, JavaScript, on arrive à assez rapidement dessiner un carré, un cercle et les faire bouger. Et ça, c'est vrai que ça devient très intéressant pour un enfant, quoi.
C'est ça, c'est que tu peux très vite faire quelque chose et même le HTML de base, en 3 minutes, tu peux trouver comment faire. Après, tu comprends pas très bien ce que tu fais, mais ça a le mérite de fonctionner. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis beaucoup de temps à arriver sur des technologies comme le PHP ou carrément la gestion de bases de données. C'est que en étant plus jeune, je ne comprenais pas du tout à quoi ça servait. L'avantage du JavaScript, c'est que tu tapes 3 lignes et tu as une pop-up qui s'affiche. Après, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, maintenant on a Internet, on a des vidéos YouTube, tu peux voir, tu peux avancer, reculer, tu peux copier le code depuis Git, donc c'est devenu beaucoup plus accessible. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué de savoir rien que connaître le nom des commandes. Parce que là, tu vas sur Mozilla, tu as toutes les commandes, tu as toutes les explications, mais il y a 15 ans, il n'y avait pas encore tout l'écosystème.
Ouais, cette espèce d'encyclopédie, de dictionnaire qui est accessible comme ça en une fraction de seconde sur Internet, c'est vrai que ça facilite grandement les choses. C'est intéressant ce que tu nous dis parce que là, c'est vrai qu'on parle de ton apprentissage quand t'étais, alors peut-être plus enfant, mais plus ado qu'enfant. Mais je pense qu'il y a une leçon à retenir là-dedans, qu'on ait 15 ans ou 30 ans et qu'on veuille apprendre la programmation, c'est que, quand on veut apprendre quelque chose, et je pense que ça s'applique aussi bien à l'apprentissage du code, de la programmation et à autre chose, c'est qu'il faut essayer de rendre ça amusant. Là, tu me disais, c'est sympa parce que le JavaScript, j'arrive à voir le résultat de ce que je fais, même si c'est pas forcément un truc avec une interface graphique, ça peut être en ligne de commande, mais en ligne de commande, on arrive assez rapidement à faire des petites formes avec les caractères. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes là, c'est que il faut essayer au maximum de gamifier l'apprentissage, donc de faire en sorte que ce soit un jeu, quoi.
Ah, c'est ça, je pense. Bon, ça, j'en ai pas parlé, mais je donne aussi des cours. Et oui, il faut que ça soit le plus facile à comprendre et il faut aimer ça. Je pense que il y a un grand facteur aussi, c'est qu'il faut aimer. Et quand tu aimes, je pense que tu progresses beaucoup plus vite. Surtout la programmation. Et oui, je pense que l'importance de gamifier. Ça peut être très utile. Après, là où je suis un peu limite sur ce raisonnement, c'est qu'il y a plein de trucs que tu peux pas gamifier, quoi. C'est rigolo de faire un jeu de rôle sur un navigateur, mais il y a plein de programmes que tu peux pas gamifier, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est vrai que c'est bien pour mettre un premier pas dedans, pour essayer de comprendre les concepts, et ensuite, une fois qu'on a compris les concepts de base, comme par exemple, tu parlais tout à l'heure des boucles, des conditions, là, effectivement, on a les outils nécessaires pour passer, entre guillemets, aux choses sérieuses, quoi.
Après, ça peut faire une bonne transition. Moi, ce qui s'est passé, c'est que à 18 ans, je savais programmer. Après, la qualité du code, elle était plus que discutable.
Ouais.
C'est, en gros, je comprenais ce que, du moins, j'étais capable d'enchaîner les lignes, mais je comprenais pas réellement à quoi elles servaient.
D'accord.
Et je pense que maintenant, je le referais. J'aurais le même âge. Avec Internet, le fait qu'on puisse accéder à la connaissance universelle et tout savoir, je pense que j'aurais appris beaucoup plus de façon formelle la programmation. Et je pense que ceux qui veulent se lancer en programmation en 2020, il n'y a plus aucune raison de ne pas y arriver, quoi.
Ouais, et justement là, si on revient un peu sur un peu plus tard dans ton apprentissage, à tes 18 ans par exemple, donc collège, enfin plus lycée et après études supérieures, tu nous as parlé d'une école d'ingénieur. Comment t'as vécu ça, alors plus surtout l'école d'ingénieur, comment t'as vécu ça en tant que profil qui avait déjà des bases en programmation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que ça t'a frustré ou pas peut-être? Que tu t'es dit, voilà, les cours, ça je connais déjà, et tu t'es peut-être un peu ennuyé au début.
J'ai eu la même réflexion que toi quand j'ai eu 18 ans. Alors déjà, j'ai fait une classe préparatoire, donc pendant 2 ans, j'ai fait que des mathématiques, de la physique des sciences de l'ingénieur. Donc c'est un apprentissage de mathématiques très fort. Ce qui fait qu'en gros, je n'ai fait de l'informatique qu'en l'équivalent de licence 3 et en M1 et en M2,
Ouais.
master 1 et master 2. Donc déjà, tu as 2 ans comme ça. Et moi, j'avais fait par choix de prendre beaucoup de cours en système d'information. Donc, par exemple, moi, pendant mes études, j'ai beaucoup fait de réseau, du réseau, de la virtualisation, tout ce qui est piratage, protection. Et j'ai fait au final très peu de programmation. Parce que, en gros, je suis parti du principe que si je faisais des cours de programmation en plus, ça n'allait pas m'apporter grand-chose. Donc, j'ai préféré faire les cours de programmation obligatoires. J'avais des cours obligatoires de C, de Java, de C++, de C#. C#, rien que ça, tous ces cours-là, se suffisent à apprendre la programmation.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des concepts qui se retrouvent dans plusieurs, dans pas mal de langages, quoi. Une fois qu'on a appris la programmation orientée objet, c'est valable pour tous les langages.
Voilà, j'ai supposé que ça allait pas m'apporter beaucoup plus de faire encore plus des cours de programmation. Donc, j'ai plus choisi l'orientation réseau et virtualisation qui, alors à l'heure actuelle, me sont beaucoup plus utiles parce que bon, le développement web, beaucoup de développeurs web n'apprennent pas les concepts de base de réseau et c'est toujours problématique.
D'accord. Et tu sens aujourd'hui que ça te sert à quelque chose dans ta carrière,
Oui,
aujourd'hui, quoi.
On voit maintenant beaucoup l'arrivée des bootcamps où les gens apprennent à programmer, mais la programmation, c'est pas que ça. Tu dois installer ça sur des machines, tu dois savoir que ça va être mis sur des réseaux, de connaître la typologie du réseau. Bah, on parlait tout à l'heure du front, du back, de savoir, bah, des fois c'est pas sur les mêmes réseaux, des fois il y a des erreurs que tu peux avoir dans ton code qui sont liées à des problèmes de réseau.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, on fait un peu le parallèle entre. Alors, les bootcamps, si tu nous parles de cet exemple-là, mais ça peut être d'autres types de formations, et ce que tu apprenais quand tu étais ado. Et en fait, je retrouve un parallèle dans le sens où il y a certaines bases qu'on peut apprendre en programmation, et en dessous de ça, en fait, il y a les fondamentales. C'est-à-dire que on doit apprendre des principes comme comment fonctionne un réseau, comment fonctionne le web, comment fonctionne la mémoire par exemple, si on parle d'un apprentissage du langage C. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux choses, il y a deux briques en fait fondamentales dans la programmation. C'est tout ce qui est en surface, donc tout ce qui est la syntaxe, un langage particulier, comment écrire telle ou telle ligne de code, les points virgules à tel endroit, etc., etc., et les concepts qui se cachent derrière tout ça. Et ouais, c'est assez intéressant de bien comprendre ça, parce que quand on fait son apprentissage, il faut pas oublier en fait qu'il y a ces deux briques, et on peut apprendre, se concentrer sur une des deux briques en premier, peu importe, je pense qu'on peut faire, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais il faut pas oublier que ces deux briques-là, il faut essayer de les maîtriser au maximum avant de construire quelque chose de plus solide au-dessus, quoi.
Bah, c'est ça. Moi, je pense que plus tu connais de choses et plus tu auras des facilités à construire ce que tu as envie de construire. Et
Ouais, tout à fait.
c'est une approche. Beaucoup de gens apprennent la programmation, mais ne se soucient pas de savoir comment ça va être intégré. Moi, je le vois comme. On en parlera après mon métier. Il y a de la programmation, mais si tu prends tout ce qui gravite autour de la programmation, tu as plein d'autres concepts en plus.
Bah justement, est-ce que tu peux nous, alors d'une part, nous rappeler l'intitulé plus ou moins exact de ton métier pour pouvoir, par exemple, s'il y en a certains qui sont intéressés, aller faire des recherches sur Internet ou comprendre à quoi correspond telle ou telle offre d'emploi ou de mission freelance sur des sites de recherche d'emploi, et ensuite nous expliquer justement en quoi consiste ton activité aujourd'hui et peut-être même en nous décrivant une journée type.
Alors, comme je disais en début, moi je suis full stack développeur, donc dans les métiers du web. Plus généralement, je me suis spécialisé dans tout ce qui est Node et Vue. Mais à la base, je suis développeur JavaScript.
Bah du coup maintenant voilà, maintenant qu'on a l'intitulé, est-ce que tu saurais nous décrire ton quotidien? Et tout à l'heure tu nous disais que ton métier effectivement c'est pas juste d'écrire des lignes de code, mais il y a tout un métier, il y a plusieurs compétences qui se cachent derrière et qu'on ne voit pas forcément quand on se dit ah bah tiens je veux devenir développeur.
Oui, alors pour rebondir là-dessus, alors une grande partie de mon métier, c'est quand même d'écrire des lignes de code. Alors à ça, je trouve que c'est comme ça que les gens essaient de réduire le métier de développeur. C'est une chose d'écrire des lignes de code, mais il y a une bonne partie qui est aussi de comprendre le besoin des utilisateurs, les besoins des clients. Donc déjà, il y a une bonne partie de mon métier qui est de discuter avec les gens. Il faut se rappeler qu'on ne programme pas pour faire plaisir ou pour se faire kiffer. On programme pour résoudre des problèmes. Et il y a une bonne partie des problèmes qu'on prend en discutant avec des clients ou avec les chefs de projet ou même les utilisateurs de l'application. Donc déjà, tu as toute cette partie-là d'analyse du projet pour pouvoir le traduire en ligne de code. Et on va dire une autre partie après, c'est que il y a écrire le code, mais le code, il va être aussi, bah, il va devoir être comment on s'assure bah, qu'il soit correctement développé, comment tu t'assures bah, que quand tu appuies sur le bouton et que tu vas le déployer à tes utilisateurs, bah, qu'il marche correctement. Donc tu as toute la partie qui est test. Et de plus en plus, moi, qui est tout ce qui est partie CICD. Donc, c'est comment on passe du code qui est sur ta machine à comment on le déploie sur un serveur quasiment instantanément. Et ça, c'est une autre partie du métier qui est de plus en plus demandée.
Ouais, tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est tu nous parles de la CI/CD, donc l'intégration, le fait de déployer un site web ou une application. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas énormément enseigné dans les écoles d'ingénieurs et plus généralement dans les cursus universitaires. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on apprend plus quand on fait un stage ou quand on trouve son premier emploi, par exemple.
Je vais répondre à ta question. Alors moi, j'enseigne aussi. Donc, bon, je le dis. Là, ça va être la première semaine où je vais enseigner en école d'ingé. Mais au lieu de ça, je travaille aussi pour des compagnies qui font des bootcamps. Donc, il y a un problème qui est fondamental dans l'éducation, c'est que l'éducation a toujours un train de retard. C'est que les problématiques de CICD, c'est des problématiques qu'on a depuis 2, 3 ans.
D'accord,
Donc, le temps que les. Rien qu'un ingénieur, il faut 5 ans pour le former.
ouais.
Donc, tu as toujours un train de retard. Et moi, je le vois quand je te disais, j'avais pris des cours de virtualisation. J'ai eu mon diplôme en 2013. Mais en 2013, il n'y avait quasiment personne qui savait faire de la virtualisation. Pourtant, le cloud computing, c'est l'année du cloud computing. Il y a eu la même chose avec le big data. Le problème, c'est qu'en 2012, des ingénieurs sortis d'école qui savaient faire du big data, il n'y en avait pas. Parce que les écoles n'avaient pas encore intégré ça. Et maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui intègrent dans leur cursus, que ce soit tout ce qui est développement continu, DevOps, ce genre de truc, mais le temps que ça arrive sur le marché, tu as un décalage de 2 ans. Et c'est pour ça, moi, là, je travaille pour une boîte et ils ont recruté un apprenti qui est spécialisé en développement continu, en DevOps, mais c'est en train d'arriver.
Ouais, tout à fait. Et après, je veux bien qu'on revienne sur, enfin, que tu nous expliques un peu comme tu as cette vision assez générale, entre guillemets, des différentes manières d'apprendre la programmation, en tout cas à travers des cursus plus ou moins classiques, comme les bootcamps ou encore les écoles d'ingénieurs. Mais je pense que avant que tu nous fasses un point de vue un peu global là-dessus, je pense que c'est important de noter que d'après ce que tu viens de nous dire, en fait, peu importe la formation qu'on va suivre pour apprendre à coder, alors pour apprendre à devenir programmeur ou développeur, tout à l'heure j'ai pas rebondi, mais on parlait justement du fait de savoir écrire des lignes de code, mais pas que, derrière il y a beaucoup de compétences qui sont demandées. Et moi j'ai un professeur en école d'ingénieur qui nous expliquait sa définition du métier de programmeur et du métier de développeur. Pour lui, un programmeur, et je trouve que cette définition, elle est, enfin, moi en tout cas, elle me convient. Un programmeur, c'est quelqu'un qui sait écrire des lignes de code, qui va savoir compiler un langage, qui va savoir organiser ses fichiers dans un projet. Un développeur, c'est justement tout ce que t'expliquais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va non seulement avoir les compétences d'un programmeur, mais qui va savoir discuter alors à certains niveaux avec le client, qui va savoir mettre en place une architecture dans son code qui va être maintenable, qui va être propre, etc. etc. Donc je sais pas si tu es d'accord avec cette définition, et après effectivement tu pourras nous expliquer un peu quelles sont les différentes façons d'apprendre le code à travers les bootcamps ou les écoles d'ingé.
Oui, je pense que si on résume le métier à juste écrire des lignes de code, je pense que c'est le métier le plus chiant du monde. Je trouve ça très dommage si tu es là uniquement pour écrire des lignes de code. Je pense que au bout de 10 ans, tu vas péter une durite.
Ouais,
Non,
tout à
mais
fait.
oui, je pense qu'il y a, je dirais pas qu'il y a une différence entre programmeur et développeur, mais il y a surtout qu'est-ce que tu as envie de construire dans ta carrière ou dans ton métier. Je connais des gens qui sont fascinés par l'approche technique. Ce
Ouais.
sont des gens qui programment super bien. Si vous avez l'occasion de travailler avec des gens qui programment très très bien, C'est une forme d'art, on va dire. À certains niveaux, il y a certaines personnes, ils se posent des questions que tu ne te poserais même pas. Si vous avez la chance de travailler pour un grand groupe de développement, vous allez en croiser quelques-uns, des gens comme ça, et
Ouais.
écoutez-les. Mais je pense, oui, il y a tout un aspect aussi de... On n'écrit pas du code pour que ça fasse joli, quoi. C'est, il faut résoudre des problèmes, il faut avoir de l'empathie pour les utilisateurs. Moi, je t'avouerai en tant qu'à dominant de front, moi, je connais certains développeurs qui vont te dire que l'interface, on n'en a rien à faire. Moi, ça me fait, mais les cheveux qui s'hérissent sur
Ah
la
bah
tête,
oui.
c'est l'interface graphique, c'est ce qui fait 80% de la satisfaction de ton client.
Ouais, c'est vrai que surtout que voilà, là t'es développeur web, alors full stack avec une dominante front, mais parce que ce que tu développes, ce que tu crées, parce que tout à l'heure tu parlais d'une forme d'art, c'est vrai que même pour moi c'est une forme d'art. Ce que tu crées est directement au contact du client, ou en tout cas de pas mal d'utilisateurs. Après, effectivement, on pourrait se dire que si on développe un logiciel qui va être utilisé par un seul opérateur ou une dizaine d'utilisateurs, oui, là, on pourrait peut-être se dire que l'interface graphique et l'expérience utilisateur est peut-être moins importante parce qu'elle aura besoin d'être moins intuitive dans le sens où 10 personnes, on peut les former. Alors que si on lance une application enfin, qui va être à destination du grand public, là effectivement ça a une importance incroyable, quoi.
Bah ouais, et je rebondis un peu sur ça. Et je pense que ça, c'est le métier du développeur, c'est que tu sais à quel public tu t'adresses. C'est que si tu arrives à comprendre bah, que tu développes une application pour 10 personnes et qu'il n'y en aura pas une 11e et que tu peux te dire bah on fait vraiment un truc très simple, quitte à pas mettre trop de forme comme des sites comme Facebook. Un site comme Facebook, c'est très beau, c'est très user-friendly, mais je suis sûr que chaque bouton, il y en a pour des milliers d'heures de travail, quoi. Je pense que, mais que t'as pas besoin de te dire ça pour si, je sais pas, tu gères une application de gestion des stocks, t'as pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est tout ton expérience de développeur te dire, bah ouais, mais si qu'il y a que 10 utilisateurs, je vais pas passer 3 semaines à designer un bouton.
Du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton activité actuelle, qu'est-ce que tu fais tes journées, comment tu les organises, et est-ce que pour toi, aujourd'hui, ton métier actuel, ton activité actuelle, est-ce que tu considères que ça répond à ta définition de la liberté? Et du coup, je veux bien avant que tu nous expliques selon toi. Qu'est-ce que la liberté et est-ce que ce métier de programmeur-développeur, justement, t'a été le poursuivre en lien avec cet aspect de liberté?
Alors, on va dire que moi, dans ma carrière, j'ai beaucoup évolué. C'est que, bon, j'ai fait, comme je disais, une école d'ingé. Donc, j'ai fait les stages obligatoires, j'ai eu des CDD, des CDI. Maintenant, je suis freelance et j'ai toujours essayé de construire ma carrière par rapport à ce que j'avais envie de faire. Donc, que ça soit. Moi, j'aime beaucoup voyager et franchement, avoir un métier de développeur qui peut se faire en remote à l'heure actuelle, c'est tout à fait possible. Donc, moi, j'ai essayé d'être de plus en plus freelance, remote. Et si, par exemple, j'ai envie de passer, je sais pas, 3 mois dans le sud de la France, je peux le faire, quoi. Donc, j'ai toujours essayé de construire dans ce but-là. Même si en ce moment, vu les conditions, je bouge pas beaucoup, mais même pour les conditions de travail, moi, j'ai horreur de travailler dans un open space. Je trouve que c'est un endroit qui est pas forcément. Il y a tout le temps un bruit de fond, il y a toujours quelqu'un pour venir te parler, il y a toujours quelqu'un pour balancer un truc à travers la pièce. Je trouve ça très bien, hein, je trouve ça très bien, mais au niveau concentration, c'est pas le meilleur endroit du monde, quoi. Et
Ouais,
surtout
tout à
quand
fait.
tu travailles pour des boîtes où les open space sont pas très beaux.
Ouais, carrément. Et là, justement, tu nous expliques que le métier de développeur, ça te permet justement d'être isolé, plus ou moins, de pouvoir te concentrer, d'être dans ton coin, de pouvoir voyager. Est-ce que tu penses justement que, enfin, est-ce que pour toi, le métier de développeur, C'est forcément le fameux cliché du mec qui est dans son coin, dans le noir, avec sa capuche et qui passe sa journée devant son écran. Ou justement, est-ce qu'on n'a pas une mauvaise conception du métier et que bah, le métier de développeur, c'est justement aussi une grande partie de communication, comme tout à l'heure tu nous expliquais avec tes clients?
Alors, je vais être un peu dans le cliché parce que là, j'ai un sweat à capuche. Donc, non, c'est oui, tu as une bonne partie du métier qui est en communication. Tu es en communication tout le temps. Là, tu vois, on est en train de se parler. 5 minutes avant, j'étais en réunion pour discuter de l'avenir des projets sur lequel je travaille. Moi, je ne pense pas qu'un développeur tout seul maintenant peut aller très loin. Ce que je disais au début, moi je vois que les technologies sont en train de se complexifier à une vitesse très impressionnante. On va dire même mon métier, je pense qu'on pouvait être full stack développeur sur un large scope il y a 10 ans, voire 20, enfin 15 ans, allez, 15 ans. Mais maintenant, les technologies sont en train de se complexifier à une vitesse qu'on va aller de plus en plus vers des développeurs qui vont connaître de moins en moins de choses. Du moins, ils vont connaître toujours autant de choses, mais sur un domaine qui est de plus en plus réduit.
Ouais, c'est ça, il se spécialise dans une technologie ou un domaine en particulier.
C'est ça, et moi je vois de plus en plus avec mes clients. Mes clients, ils me recrutent pas parce que je sais faire du réseau, ils me recrutent parce que je suis expert développeur JavaScript dans les technologies Node.js, Vue.js. C'est très très rare qu'on m'appelle pour quelque chose qui est légèrement décalé, quoi. On me propose souvent des missions avec du React, mais c'est un peu la seule excentricité que j'ai.
Ok, et pour rebondir justement sur ta remarque, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui en freelance, est-ce que tu, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Que ce soit au niveau des choix de technologie, alors je sais qu'il n'y a pas un langage ou un framework mieux qu'un autre, mais là effectivement tu nous parlais de sa spécialisation, donc a priori un des conseils que, si je comprends bien, que tu pourrais donner, c'est d'essayer de se spécialiser dans un domaine pour être vraiment un expert et donc pour être assez recherché. Est-ce que tu aurais d'autres conseils comme ça pour quelqu'un qui a déjà des bases en développement et qui voudrait se lancer à son compte?
Bah, je dirais ouais, de reprendre cette idée de l'expert. En freelance, on cherche un expert. On cherche un mec qui soit opérationnel jour 1. Moi, j'ai pris une mission il y a 6 mois. C'était une petite boîte qui a en plus qui a pris le Covid de plein fer. Ils ont pris une personne comme moi parce que je leur ai dit bah, jour 1, vous m'expliquez comment vous travaillez, vous m'expliquez quel est votre métier. 2 heures après, je peux coder. C'est parce que je pense qu'il y a une différence entre les gens qui sont en CDI et les personnes qui sont en freelance. Quand on recrute quelqu'un en CDI, tu as le temps de le former. Mais quelqu'un qui est en freelance, bah déjà, tu ne sais pas combien de temps il va rester dans l'équipe. Donc, ce que tu veux, c'est gagner un maximum de temps.
Ouais,
Parce que
tout à fait,
ça,
ouais.
il faut pas se mentir, un freelance, ça coûte beaucoup plus cher qu'une personne en CDI.
Et justement, est-ce que quelqu'un qui veut se lancer comme ça en freelance et qui a soif de liberté, alors encore une fois, on a chacun notre définition de la liberté, mais là, si on parle en l'occurrence de liberté géographique et aussi un peu de liberté temporelle, on va dire, est-ce que tu conseilles, enfin, est-ce que pour toi, il y a des profils qui sont enfin des profils ou des personnalités qui sont adaptées au freelance et ou adaptées au CDI, dans le sens que ce que j'entends par là, c'est que y a peut-être des personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui se sentent pas forcément à l'aise dans un CDI, et peut-être que c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être plus libres dans leur projet, d'être plus qu'on leur donne plus de liberté pour la créativité. Et justement, est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a vraiment deux profils ou que on pourrait d'abord passer par un contrat dans une grosse boîte pour essayer d'engranger un maximum d'expérience et ensuite seulement se lancer en indépendant?
Alors, moi, je vais partir de mon cas parce que les autres cas, je ne les connais pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré, j'ai fini mon diplôme d'ingé. Je suis allé me balader au Canada. J'ai été embauché. Je suis revenu en France me faire embaucher par une très grosse boîte française qui est la 8e boîte de développement informatique d'Europe. Je peux la citer, hein, c'est le groupe
Oui.
Dassault, donc c'est Dassault
OK.
System. Ce qui m'a permis d'obtenir beaucoup d'expérience, parce que rien que de voir comment ça fonctionne dans un très grand groupe, ça te permet d'apprendre le métier. Et c'est ce que je disais au début, quand tu travailles bah, pour un leader de la tech européen, tu croises des profils, mais des gens qui sont monstrueux. J'ai travaillé avec des développeurs. Tu voyais bien qu'il y a toi et il y a eux. Et tu vois qu'ils sont accablés de la même façon. Bon, après, ça a des avantages et des inconvénients. Ça te permet d'acquérir un peu d'expérience comme ça. C'est pour ça que je déconseillerais à quelqu'un de se lancer en freelance jour 1 à la sortie d'école.
OK.
Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que c'est ce que je disais au départ. Moi, la plupart des freelances que je connais, ils ont fait 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans une boîte avant d'essayer de se lancer en freelance. Et je pense que c'est dur de se lancer en freelance dès le premier jour.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça nous permet d'acquérir des compétences, voilà, en communication, comme on disait tout à l'heure, et d'une part de monter en compétences techniques et en compétences, toutes ces compétences annexes qui sont pas forcément obligatoires, mais fortement recommandées si on veut se lancer.
C'est ça, et je pense aussi, bon, moi je vois dans le cas des grands groupes, c'est que il y a du budget limité, quoi. Là, je travaille avec des CICD Azure. Je ne sais pas combien coûte la licence, mais une petite boîte ne peut pas se le permettre. J'avais travaillé en tout ce qui est business intelligence, c'est tout ce qui est analyse de beaucoup de données. Je ne sais pas, la licence, la licence, elle a 80 000 euros. La
Ouais, c'est
licence.
sûr.
Donc, tu vois que dans les grands groupes, tu peux acquérir cette expérience. Là, tu peux très facilement t'imprégner des autres. Bon, ça a aussi des travers. Hein, mais oui, je pense qu'il faut au départ, en début de carrière, essayer de prendre de l'expérience. Après, moi, je vois des gens que je connais. Il y en a beaucoup qui ont quand même commencé. Il y avait des prémices, quoi. Je pense pas qu'on devienne freelance au hasard. Moi, j'ai toujours monté soit des petits sites, soit écrire des lignes de code que j'utilisais pour moi-même.
Ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect entreprenant, créateur, créatif, et c'est vrai que ça se ressent, ouais.
C'est ça, et je pense qu'il y a quand même une base. Je pense pas qu'on devienne freelance par hasard, du moins. Je pense qu'il faut quand même avoir le truc, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et je pense qu'il y a un certain nombre de prérequis à avoir pour être freelance. Déjà, il faut, je pense, avoir une petite appétence au risque, même si je trouve que les freelances en France gagnent très très bien leur vie. Mais moi, ça m'est arrivé pendant le Covid. J'ai mon chef de l'émission dans laquelle j'étais. Un matin, il m'a dit bah, Gaëtan, il faut que je te parle. Bon, quand il arrive, il a les mines complètement et qui dit bah, je suis désolé de te dire, tu prends tes affaires demain et c'est fini.
Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que on parlait des grands groupes et de tout ce que ça peut nous apporter. On est entouré de profils extraordinaires, extrêmement compétents dans leur domaine. C'est vrai que il y a de ça. Mais d'un autre côté, le fait de se lancer un peu dans le vide aussi des fois, enfin se lancer en indépendance, c'est aussi un peu se lancer dans le vide parce que on n'est pas sûr demain, comme tu viens de dire, hein, de trouver une mission, on n'est pas sûr de gagner assez d'argent à la fin du mois. Mais en même temps, ça nous apprend énormément plein de choses parce qu'on est un peu lancé comme ça dans le désert et puis on est obligé de se construire petit à petit soi-même, quoi.
C'est ça. Moi, je l'ai remarqué aussi par rapport à mes compétences. Quand j'étais en CDI, ma courbe de progression dans les technos que j'utilisais était très faible par rapport à maintenant. Pour la simple raison, c'est que tu as moins la motivation de te dire bah, du jour au lendemain, on peut me mettre dehors.
Ouais.
Et je me suis aperçu que depuis que je suis freelance, mon niveau m'a quasiment explosé, quoi.
OK.
Et surtout, bah, du fait qu'on me recrute pour une expertise, je pense que mon niveau n'a jamais été aussi élevé depuis que je programme. Mais à côté de ça, l'expertise vue que j'ai, la doc de vue, j'ai dû la lire en entier 4 ou 5 fois.
Ouais.
Et en plus de ça, moi, comme maintenant je l'enseigne, tu es toujours obligé de te mettre à jour. Tu as envie d'aller plus loin aussi, tu vois. C'est ce que j'en revenais. Au bout d'un moment, tu peux voir ça comme une forme d'art. C'est, tu vas te dire, ah ouais, mais alors pourquoi à tel endroit ils font ça de telle façon? Et que quand tu fais ça, on va dire, pour un boulot, on va dire, un boulot, tu poseras pas la question.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce goût au risque et ouais, effectivement, le côté je suis un peu dans ma zone de confort, je sais que il y a de fortes chances que demain, voilà, je sois encore là, même si j'ai pas fait mes devoirs entre guillemets de pousser mes compétences plus loin. Là, en fait, on en revient un peu à cet aspect. Est-ce qu'il y a un profil, un caractère, une personnalité plus ou moins adapté pour être freelance? Et je pense que ça répond un peu à la question, dans le sens où il faut essayer de se connaître soi et de comprendre quel est le rapport qu'on a au risque pour se dire, ok, moi, le risque, ça me booste, ça me permet de grossir, de grandir, d'apprendre et de me coucher le soir en étant fier de moi, ou alors au contraire, moi, le risque, ça me paralyse et il me faut quelque chose de plus confortable, entre guillemets.
C'est ça. Et moi, je t'avouerais que je ne suis pas d'une famille qui a une très forte appétence au risque. Mes parents sont fonctionnaires. C'est pour ça que moi, en sortie d'école, j'aurais pu jamais être freelance. Et
Ouais.
j'aurais tenu 3 semaines. En plus, bon, tu peux avoir une pression familiale, de prendre un bon boulot, un truc
Ouais, tout à fait, ouais.
stable. On va dire que c'est des styles de vie un peu différents. C'est que. Mais là où je suis pas d'accord forcément avec ton raisonnement, c'est que souvent on associe le freelance à la liberté. Je suis pas sûr que ça soit une liberté en plus. Il y a beaucoup de gens qui essayent de prôner le fait d'être sur la plage en train de développer. Moi, je pense que pour avoir essayé de vivre cette vie-là, tu es très loin de ça.
Ouais.
J'ai mes premières missions, je les ai trouvées en Thaïlande quand je vivais à Chiang Mai. T'es très loin de l'image cocotier, parce que c'est une équipe Scrum, par exemple, le daily, il est à 8 h du matin. Donc,
Ouais.
t'as ce problème-là, t'as la time zone, t'as... Et c'est ce que je disais, c'est rare qu'on travaille tout seul. Donc, c'est-à-dire, oh, bah, il est 22 h, je vais coder, quoi.
Ouais, bah c'est vrai que ça, c'est un truc à prendre en considération quand on veut se lancer dans un projet de vie ou dans un projet en travaillant avec un client. Il faut penser à tout ça, il faut peser le pour, le contre et se dire, ok, est-ce que la liberté que le freelancing ou toute autre activité va m'apporter, est-ce que c'est vraiment la liberté qui, moi, m'attire, quoi?
Ouais, c'est ça, c'est plutôt la question à se poser, c'est quelle liberté tu as envie d'avoir. Et je pense
Ouais.
que tu échanges un peu une liberté, du moins, ça dépend de. Soit tu échanges une liberté contre une autre ou une prison contre une autre, ça dépend du point de vue si tu es optimiste ou pessimiste. Moi, le fait d'être passé en freelance, ça m'apporte au point de vue de la liberté, c'est que moi, je peux changer souvent. J'aime bien changer. Et en CDI, un mec qui change de boîte tous les 6 mois, c'est un mec qui est instable. Quand tu es en freelance, moi, j'ai jamais aucun client qui m'a dit, mais attendez, vous changez de poste tous les 6 mois. Pourtant, je suis la même personne, mais c'est que un freelance, bah, déjà, par définition, c'est plus instable. Donc, on m'a jamais posé la question, pourquoi il y a des missions, je restais que 6 mois, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, parce que c'est vrai que en général, une boîte, un client va embaucher un freelance parce qu'il y a un besoin plus ou moins ponctuel, alors que une autre boîte va essayer de capitaliser justement sur des employés, de les former et on est vraiment sur cet aspect capitalisation de talent, quoi.
C'est ça, et je pense que tu n'utilises pas les ressources de la même façon. Ce n'est pas le même objectif. C'est des métiers, même si tu fais le même métier, il y a des choses qui sont différentes. Moi, je trouve qu'en freelance, tu as une position de force qui est beaucoup plus forte qu'un employé. Tu as un salaire qui est plus élevé, tu as aussi, on t'écoute beaucoup plus comme un expert. Moi,
Ouais.
de toutes les boîtes avec qui je travaille, elles me disent, bah, quand elles ont des choix techniques à faire, elles vont poser la question parce qu'elles savent que j'aurai la réponse. Ou du fait que je suis freelance et que, par exemple, dans le cas de Vue, c'est une technologie qui est très récente et qui a explosé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense qu'elle continuera à se développer. Mais des développeurs qui sont dans une entreprise, ils ont fait un projet Vue. deux projets vus. Moi, en tant que freelance, j'en suis à 6 ou 7. Donc, en gros, des architectures, je peux, quand un client me pose des questions d'architecture, bah, j'ai la mémoire de tout ce que j'ai fait avant. Donc, tu as aussi ce truc-là, bah, comme tu changes plus souvent, bah, tu acquiers de l'expérience plus vite, mais tu as fait la réflexion, c'est la loi de Pareto. En gros, il y a une loi qui dit que 20% des actions font 80% des résultats.
Ouais.
Mais je me suis aperçu en faisant des missions que si tu restes un temps au bout de 1 mois ou 2 mois dans une mission, tu as appris 80% de ce que va t'apporter la mission. Et moi, je le vois très bien avec les technologies comme Vue. C'est une fois que tu as lu le code, que tu as manipulé, que tu as vu comment ils se sont posé la question, comment l'architecture est faite, tu as quasiment pris l'intégralité de ce que la mission va t'apporter.
Ouais, tout à fait. Et je pense que ça résume un peu bien cette fameuse question de est-ce que un freelance est vraiment libre ou alors qu'est-ce que justement la liberté pour un freelance? Parce que au final, c'est vrai que quelqu'un qui se lance en indépendant, il va pouvoir éventuellement aller travailler sur la plage parce que voilà, comme tu disais, les meetings ils sont à 8h du mat et du coup à 15h le freelance il aura terminé sa journée à cause ou grâce au décalage horaire, mais il y a aussi ce côté où on est un peu moins libre par rapport à la charge mentale, c'est-à-dire que le client, là, il va te demander des conseils. Il va moins forcément t'imposer des technologies que si tu étais dans une boîte en CDI. Et là, c'est vrai que pour certains, ça va être assimilé à de la liberté de pouvoir choisir sa techno, de pouvoir choisir son architecture, mais pour d'autres, ça va être au contraire une prison, ou en tout cas un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans le sens où les choix des technos, bah, c'est pas forcément. Enfin, les choix des technos, les choix des architectures, et de manière générale, le fait de prendre des choix, de faire des choix, c'est pas forcément quelque chose qui est adapté à tout le monde.
C'est
Ouais.
ça, je pense qu'il faut vraiment tester pour se rendre compte. C'est ce que je te disais, je pense que tu échanges une liberté contre une autre. Moi, il y a des points positifs. Je peux changer souvent de mission. Je peux imposer beaucoup de choses à mes clients. Par exemple, là, je vais donner des cours en école d'ingé. Bah, j'aurais dit, je ne suis pas là tel jour, à telle heure. C'est
Ouais,
même
bah
pas la
oui.
peine d'espérer me joindre. Et c'était pas une négociation. Bon, il y a eu une négociation. J'aurais quand même posé la question. J'aurais dit que j'avais l'opportunité. Mais on sent que, comme ils veulent quand même te garder, ils sont très arrangeants. En tant que freelance, ça, on va pas te poser des questions. Pourquoi tu t'essaies de diversifier au maximum ton activité? Parce que implicitement, un freelance, tu le recrutes pour ses compétences. Donc, tu te doutes bien que si il a une opportunité de faire autre chose, il va la prendre pour avoir une corde de plus à son arc. Et donc, ça veut dire que il sera plus facilement employable par quelqu'un d'autre ou il apportera des compétences aussi à ton équipe. Tu as ça. Mais après, il y a un revers de médaille qui est fort. C'est que bah, tu es responsable de ta propre vie.
Ouais.
C'est que tu es. Alors, l'État paiera, mais c'est. T'es obligé de faire bah, la facturation, t'es obligé les contrats, t'es obligé de trouver des clients, ou même si ça, il y a des boîtes qui te permettent de gagner du temps et qui te le font à ta place, ils te font un comptable, faut payer tes impôts. Voilà. Et c'est
Ouais,
pas,
tout à
moi je l'ai
fait.
vu, hein, c'est pas tu fais suivant, 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 hein, c'est là,
Ouais.
tu passes 4 heures à remplir ta fiche d'impôts.
Ouais, carrément. Bah, c'est bien, je pense que ça résume un peu assez bien la vie de freelance. Alors après, voilà, chacun se design un peu sa vie comme il le souhaite, mais c'est vrai que là, je pense que ça résume bien ce podcast, et on va terminer là-dessus pour conclure, que voilà, il faut choisir quelle est, enfin, il faut déjà comprendre quelle est sa définition de la liberté, et ensuite choisir un peu un métier ou un type de métier qui correspond à sa liberté.
C'est ouais, je pense qu'il faut aimer ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de mes étudiants bon, qui aimeraient faire de la programmation parce que ça gagne bien, parce qu'on voit des mecs sur la plage. Et quand tu leur dis attends, va coder 3 heures et après tu vas voir que c'est pas si facile que ça.
Ouais, tout à fait, ouais.
Je pense qu'il faut aimer ça. Après, je pense qu'en tant que développeur, on a la chance qu'on vit un peu une période exceptionnelle, c'est que on peut construire sa vie autour de son métier. Il n'y a plus aucune raison, si tu n'as pas envie de te pointer dans un bureau pour raison X ou Y, il y a des clients qui recherchent ce genre de truc. Il y en a. Bon, il y en a moins. Il y en a moins, mais c'est peut-être une. Avec le Covid, je pense que ça, c'est vachement avantageux. Mais
Ouais, tout à fait.
je pense que tu peux construire ta vie autour de ton métier. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui essaient de faire la séparation entre leur vie perso et leur vie pro. T'es la même personne au final. Je pense qu'il faut tester et essayer d'orienter sa vie là où on veut aller après, qu'on soit en freelance ou en CDI.
Merci en tout cas Gaëtan, et peut-être à bientôt pour un prochain épisode pour nous donner une mise à jour de ce que tu fais actuellement.
Bah, merci à toi, hein, et ça sera avec plaisir de revenir, sachant que moi, ma situation change assez fréquemment. Donc, peut-être que je te raconterai pas la même chose dans un an.
Ben j'espère pour toi. Merci Gaëtan, salut.
Allez, salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.